propose de lire tout d'abord au chapitre 4, le verset 17. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Voilà, Paul écrivait ceci, inspiré par l'Esprit. Voilà, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je vous invite à reprendre la lecture au verset 25 du même chapitre. Verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, afin qu'il convienne à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà, ces paroles sont extraites de l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul a écrit cette épître à l'église d'Éphèse. On suppose qu'en réalité, cette épître était même destinée à être lue par plusieurs églises. Elle ressemble beaucoup à l'épître de Paul aux Colossiens, qui devait être lue par l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée devait, elle aussi, veiller à ce que la lettre qui lui avait été envoyée soit lue à Colosse. On suppose qu'il en était de même pour l'épître de Paul aux Éphésiens, une épître dans laquelle Paul parle abondamment de l'église, de ce que Dieu a fait de nous individuellement et puis en tant que membre du corps de Christ. Ici, on pourrait considérer que l'exhortation qui est au cœur de ce passage, c'est cette exhortation de Paul aux chrétiens d'Éphèse à veiller à être remplis de l'Esprit. Au verset 18, Paul écrit en effet « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dans l'ensemble de cette épître, en réalité, on voit qu'il s'agit d'une pensée très forte. L'Église est constituée de ceux et celles qui ont été rachetés par grâce et qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été scellés par le Saint-Esprit, C'est ainsi que le Seigneur l'a voulu, ou le jour de la Pentecôte, vous savez de quelle manière le Saint-Esprit a été répandu abondamment sur les disciples qui étaient assemblés dans la chambre haute. C'est en réalité la naissance de l'Église. L'Église est ce peuple racheté, sauvé, gracié par Dieu, sur lequel, dans lequel il met son esprit. Dans cet épître aux Éphésiens, au chapitre 2, voyez, parlant à ceux et celles qui constituent l'Église, Paul écrira « Vous êtes devenus une habitation du Seigneur en esprit ». Alors, soyez remplis de l'esprit. Nous nous apercevons dans ces versets, dans ce passage de l'épître aux Éphésiens, que ça va d'abord se manifester pour nous dans le fait que bien, nous n'allons plus nous conformer à ce que nous étions, à la vie que nous menions, lorsque nous étions étrangers à ce salut, à cette vie de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, écrit Paul, vous êtes lumière dans le Seigneur. Quel changement ! Nous vivions autrefois, notre intelligence était obscurcie, nous vivions, nous marchions vers la condamnation, vers la perdition, nous en étions parfois tout à fait inconscients, et puis lorsque l'Évangile s'est fait entendre à nous, nous avons pris conscience de notre condition de pécheur. Nos illusions se sont dissipées, nous avons reconnu ce que nous étions réellement devant Dieu. Ça nous a humiliés. Mais béni soit Dieu, lorsque l'Évangile nous a été proclamé, nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Le don de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cru dans ce sacrifice. Nous avons placé notre espérance non pas dans nos œuvres, non pas dans notre religion, non pas dans notre capacité d'apaiser Dieu par quoi que ce soit qui viendrait de nous, mais nous avons placé une pleine espérance dans le sacrifice de Jésus. Nous avons reçu son pardon. Et quel changement ! Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, bien, nous sommes lumière dans le Seigneur. Ça a été une entrée, ça a été le début, mais le fait de recevoir son esprit également, hein, ceux qui appartiennent à Christ, dont son esprit, eh bien, ça nous amène à vivre une vie tout à fait différente. Alors, dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens, on s'aperçoit que dans cette vie à laquelle Dieu nous appelle, en tant que membres de son corps, remplis de son esprit, eh bien, nous allons rejeter, vous voyez, certaines choses. Et certaines choses qui marquaient notre vie auparavant, elle la définissait, nous vivions dans ces choses, nous les pratiquions, eh bien, Paul nous dit, il va falloir les rejeter. Et ce n'est pas un devoir, vous voyez, imposé de l'extérieur, comme un code de morale, mais c'est une vie dans laquelle Dieu nous a introduits. L'Esprit de Dieu en nous y conduit, agit sur notre volonté pour nous amener à la désirer. Et il y a une part de choses que nous rejetons. Alors, nous l'avons lu, par exemple, il s'agit de rejeter le mensonge pour vivre et pour pratiquer, pour dire aussi la vérité. Renoncer à la colère. Renoncer à la colère quand elle n'est pas légitime. Ou rejeter à la colère, renoncer à la colère quand elle voudrait s'installer. Vous voyez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, hein, écrira Paul. Ça veut dire que la colère, parfois, elle peut se manifester de manière légitime, mais si nous l'entretenons, si nous vivons dans cette colère, c'est écrit, hein, ça donne accès au diable. Alors, l'Esprit de Dieu en nous nous conduit à la rejeter. Rejeter, renoncer à la paresse, c'est ce que Paul dit aussi, celui qui ne travaillait pas, bien qu'il travaille de ses mains, pour avoir de quoi vivre, et pas seulement, mais aussi donner à celui qui est dans le besoin. Puis renoncer, on l'a vu également, à l'amertume, l'animosité, la calomnie, la méchanceté, hein, ces paroles qui peuvent parfois sortir de la bouche des païens, qui causent parfois tant de querelles, de divisions, dans le milieu de travail, dans un foyer, sous un même toit parfois. Bien, tout ça, nous sommes appelés à y renoncer. Vous voyez, notre nature mauvaise, même après notre conversion, voudrait parfois nous y conduire encore. Bien, Paul dit renoncer. Et ça, c'est à nous, vous voyez, de le faire. Et ça fait partie de l'héritage glorieux que Dieu nous donne en tant que membre de son Église, rempli de son esprit. Dieu nous invite, il nous exhorte à nous-mêmes, vous voyez, y renoncer, les rejeter. Ce n'est pas quelque chose qui se passe sans notre volonté. Non, non, c'est une décision. C'est de son plein gré que le chrétien, lorsqu'il est tenté de les pratiquer, ces choses, eh bien, il va y dire non. Pas question pour moi de céder, de vivre comme je vivais autrefois. Il y a eu ce changement, et maintenant, béni soit Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous secourt. Et parfois, s'il y a une lutte en nous, il nous rend capables d'en être vainqueurs. Propos insensés, méchanceté, impureté, avarice, bien, le Seigneur nous dit renoncer. Renoncer à toutes ces choses. C'est un renoncement, est-ce que nous aimons renoncer ? C'est un renoncement qui néanmoins est un renoncement joyeux, un renoncement avec lequel notre conscience est d'accord. Et parfois, si ça se passe dans une lutte, la parole de Dieu ne cache pas qu'il y a une lutte, Épître aux Galates, l'esprit et la chair ont des désirs opposés entre eux. Voyez, bien lorsque nous remportons une victoire dans cette lutte, voilà, ça fait du bien. Il y a ce témoignage de notre conscience, il y a ce témoignage de l'Esprit de Dieu qui nous dit « c'est bien, tu t'es comporté comme mon enfant, et ça c'est bon ». Il y a ce vieux cantique qui disait « je sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur ». Voyez, c'est ce que Paul représente ici sous une autre image lorsqu'il dit que bien lorsque nous appartenons à Christ, c'est tout un chemin, nous apprenons à nous dépouiller de ce que nous étions autrefois. C'est un dépouillement et on se revêt. Se revêt de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, un petit peu comme un mendiant qui se dépouillerait de ses guenilles et qui se revêtirait d'un habit de roi qu'on lui donne. C'est un petit peu ce que Dieu a fait avec nous. Il nous dépouille de ce que nous étions autrefois dans notre misère, dans notre fange. Il nous dit autrefois, vous étiez marchés selon le prince de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, vous y marchiez autrefois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde vous a aimé, il vous a rendu à la vie avec Christ, il vous a ressuscité ensemble, il vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et il vous a donné son esprit. Vous voyez, c'est un dépouillement de ces guenilles, de notre vie passée. Parfois, elle nous colle encore à la peau, mais nous nous en dépouillons. Quelle gloire! Et nous nous revêtons de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se revêtir de Christ? Bien, c'est marcher dans la vérité. C'est le fait d'être diligent, travailleur. C'est la générosité, on l'a vu, pour donner à celui qui est dans le besoin. C'est la grâce de prononcer, non pas des paroles blessantes ou inutiles, mais une parole qui communique une grâce, une parole qui sert à l'édification. C'est la possibilité de pratiquer la bonté, la compassion, le pardon, la vie dans la lumière de Dieu. Seigneur, éclaire-moi. Parce que dans mon cœur, il y a quelque chose là qui te déplaît. Parfois on le sait, parfois on ne le voit pas. Seigneur, éclaire-moi. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, lave-moi lorsque dans mes pensées, dans mes mobiles, dans mes actes, dans le mobile que je me cachais à moi-même, il y a quelque chose qui te déplaît, lave-moi, pardonne et permets-moi de marcher d'une manière conforme à ce que tu désires. Une vie vécue selon la plénitude du Saint-Esprit, elle consiste à devenir les imitateurs de Dieu. Soyez donc, nous l'avons lu, les imitateurs de Dieu et marchez à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà un petit peu dans ce passage ce que Paul dit aux Éphésiens, après leur avoir montré tout le bénéfice du salut que Dieu nous a acquis à la croix. Et puis, je vous propose, pendant les quelques instants qui nous restent, de découvrir aussi, dans la suite de ces versets, les prolongements très pratiques dans la vie de tous les jours, bien de cette plénitude de l'Esprit. Lorsque nous évoquons la plénitude du Saint-Esprit, nous pensons souvent aux miracles accomplis par les apôtres. À juste titre, dans le livre des Actes, l'on voit souvent, effectivement, que les apôtres qui ont accompli des miracles, parfois des miracles extraordinaires, on pense à ce qui est dit de Paul à Éphèse, il accomplissait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. C'est vrai aussi de l'exercice des dons spirituels dans l'Église, certainement. Un chrétien, un croyant rempli de l'Esprit pourra, par une parole prophétique édifiée, exhortée, consoler, de telle sorte que dans un culte comme celui-ci, bien un frère ou une sœur dans la foi, ou même un incroyant, pourra entrer, et en plus de la communion fraternelle, des cantiques qui montent vers le Seigneur, de l'enseignement de la parole de Dieu, bien il pourra recevoir une parole qui le concerne, car Dieu connaît le secret des cœurs. Et ça arrive, ça, hein, encore au milieu de nous. Je me souviens de ce jeune homme-là qui, au courant de la semaine, avait vécu une profonde conviction de péché. Il venait à l'église depuis quelques mois, et depuis plusieurs jours, il ne pouvait plus dormir parce qu'il avait peur de la mort. Il avait compris qu'il était perdu. Et là, dans un culte, personne ne savait ce qu'il avait vécu. J'étais là au fond de son cœur. Bien, une chrétienne était là, une petite chrétienne avec une petite voix. Et elle a donné un don spirituel ce matin-là. Et elle disait, Dieu, vois ton cœur, il a entendu ta prière, il pardonne ton péché, tu es libre maintenant. Ah, ce jeune homme, il n'avait pas besoin de lui expliquer, il a tout de suite su que c'était pour lui. Et il a reçu cette parole de Dieu. Et à l'issue du culte, il est sorti. Vous voyez, le fardeau de sa culpabilité était enlevé. Il est revenu l'après-midi, et dans la voiture qui le ramenait dans le domicile où il logeait ce soir-là, il dit, j'ai senti, il n'a pas entendu de voix, il n'a pas eu de vision, il a dit, j'ai senti, là, comme si j'avais pu la toucher, la présence du Seigneur Jésus. Je savais que toute ma vie basculait pour le bien, que le Seigneur maintenant voulait la prendre en main. Vous voyez, bien sûr, la plénitude du Saint-Esprit, c'est tout ça. Mais la plénitude du Saint-Esprit, telle que Paul ici en parle aux Éphésiens, elle se manifeste aussi de manière très pratique dans les choses de tous les jours. Alors, en quoi, par exemple? Bien, regardez avec moi, si vous voulez, dans le chapitre 5. Voyez, on va relire les versets 19 à 21. Voilà, soyez remplis de l'Esprit. Verset 19, « Entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Dans l'épître aux Colossiens, Paul ajoute cette précision, « célébrant et chantant dans vos cœurs les louanges du Seigneur. » Il ne s'agit pas nécessairement ici des chants tels que l'Église est appelée à les faire monter vers Dieu dans une adoration collective, mais aussi de nous entretenir dans le champ intérieur de cantiques, de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels. Vous voyez, ça a son importance. Hein, qu'est-ce qui passe dans notre cœur comme musique? Voilà, chanter ces cantiques spirituels, nous entretenir dans notre cœur par des cantiques à la gloire du Seigneur, c'est aussi un fruit de la présence de l'Esprit. Rendre grâce, verset 20, continuellement à Dieu. Et puis verset 21, en fait, c'est le début de tout ce que l'apôtre va dire dans le reste de ce chapitre, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, cette soumission, on va en parler brièvement, mais c'est aussi un fruit de la plénitude de l'Esprit. Alors, elle se manifeste dans des domaines très pratiques. Regardez par exemple le verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Voilà, on remarque ici que cette plénitude de l'Esprit, elle est appelée à se manifester, non pas simplement dans la vie de l'Église telle que nous la concevons, mais aussi dans le foyer. Et ce verset, vous voyez, aujourd'hui, a de quoi choquer. Hein, c'est le monde, quand on le présente, c'est pas ce certains passages de la Bible, dont celui-ci, aujourd'hui, bien, ça a de quoi choquer. Ça choque parce que il faut bien comprendre ce que Dieu dit. Le monde se rend souvent coupable de contresens sur la parole de Dieu. Lorsqu'il est question de soumission, il n'est pas question d'une soumission abjecte. Hein, c'est souvent l'image que le monde en donne. Et on comprend que ce n'est pas du tout ici ce que Dieu veut dire. De la même manière, lorsqu'il est question d'autorité, on a parfois de l'autorité une image dure, une image impitoyable. Et si la Bible parle d'autorité, elle ne lui donne absolument pas ce sens. L'autorité que Dieu exerce est bienveillante, bienfaisante, elle est nécessaire. C'est vrai néanmoins que Dieu a établi dans le monde, vous voyez, des rapports. Alors, on ne va pas parler de hiérarchie, parce que c'est un mot qui est beaucoup employé dans le monde, hein, avec des sens que le monde lui donne. Mais Dieu a établi un ordre. Avec, pour que la société des hommes fonctionne, des rapports d'autorité et de soumission volontaire. Regardez par exemple, il nous est dit que Dieu a établi les magistrats qui portent l'épée, hein, les représentants de l'ordre. Vous voyez, si on méprise leur autorité, le monde devient vite une jungle. Si on méprise l'autorité de ceux qui ont une position d'autorité, la société s'écroule, elle bascule dans la violence et dans le chaos. Et même voyez, il y a certains rapports d'autorité que Dieu a établis, qu'il faut absolument respecter, sans quoi tout bascule, tout devient flou et on n'a plus de repères. Tenez, là, quand Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il y a un autre verset de l'Écriture qui dit que Christ est le chef, c'est-à-dire la tête de tout homme, que l'homme est le chef, c'est-à-dire la tête de la femme, dans le foyer notamment, et que, regardez, ce rapport de soumission et d'autorité s'étend même dans le plan de salut à Jésus-Christ lui-même et à Dieu le Père, puisque Paul continue en disant que Dieu est le chef de Christ. On comprend donc qu'il s'agit d'un rapport d'autorité et de soumission volontaire, bienséant, bienfaisant. Luther disait du chrétien, un chrétien n'est l'esclave de personne, mais il est le serviteur de tous. Hein, c'est une soumission volontaire. Alors, rapidement, dans le foyer, ça ne veut pas dire que l'homme a toujours raison. Ça ne veut pas dire que l'homme et la femme ne puissent pas parfois parler lorsqu'ils sont en désaccord sur tel ou tel point. Ça ne veut pas dire que la femme ne puisse pas avoir d'excellentes idées. Dans certaines circonstances, avoir un conseil, même qui va empêcher son mari de faire une bêtise, pourquoi pas? On se souvient, elle n'était pas sa femme, pas à ce moment-là en tout cas, mais on se souvient de la réaction de David lorsqu'Abigail lui a empêché de commettre une grosse erreur en tuant Nabal. Mais, voyez, c'est un respect de l'ordre que Dieu a établi. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. C'est un respect dans la foi de l'ordre que Dieu a établi. Et je vous assure, on se trouve bien de respecter ce que Dieu dit. Il y a une contrepartie, bien entendu, dans le foyer. Regardez au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. La vie de l'Esprit se manifeste aussi par là. Pas seulement dans le miraculeux, pas seulement dans le domaine du miracle, mais les marques d'attention qu'un mari va apporter à son épouse, la manière dont il va se comporter dans le foyer, tout ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et quel contraste avec ce qui se passe dans le monde. Voyez, quelle différence dans l'Église de Christ. Et bien sûr, cet amour est le ciment d'un foyer qui va s'édifier, qui va marcher dans le Seigneur. C'est vrai aussi dans d'autres aspects de la vie de famille. Regardez au chapitre 6 et au verset 1er. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors, pourquoi les enfants en premier? Il sera question des parents après. Mais parce que c'est toujours la pensée « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, en étant remplis de l'Esprit. » L'obéissance et la déférence des enfants envers leurs parents, lorsqu'ils sont convertis, eh bien c'est un aspect de la vie de l'Esprit. Mais oui, c'est vrai des enfants petits, parce que nous croyons qu'un enfant petit peut authentiquement se convertir au Seigneur et connaître le salut. C'est aussi une marque de la plénitude de l'Esprit pour les enfants qui sont devenus plus grands. C'est le missionnaire en Chine, Hudson Taylor, qui disait ceci, il disait « J'ai vécu et je n'ai jamais vu quelqu'un transgresser ce commandement « Honore ton père et ta mère » sans que Dieu exerce sur lui sa paternelle discipline. » Voyez, même un enfant devenu grand, même un adulte, c'est pour nous « Honore ton père et ta mère ». C'est une marque de la plénitude de l'Esprit. C'est un commandement de Dieu, nous le vivons non pas comme étant sous la loi, mais rempli de l'Esprit, étant sous la loi de Christ. Et puis, il y a une contrepartie, verset 4, chapitre 6, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Dans ces rapports d'autorité et de soumission volontaire que Dieu a institués, il y a un effort, il y a une lutte, il y a une gloire à pratiquer ce que Dieu dit lorsqu'on se trouve dans cette position de soumission, mais aussi lorsque, sous d'autres rapports peut-être, nous nous trouvons en position d'autorité. C'est parfois plus difficile d'exercer l'autorité que de se soumettre. Et heureusement, le Saint-Esprit nous vient en aide. Rapidement, nous allons bientôt terminé, mais regardez, toujours dans ce chapitre 6, au verset 5, on sort du cadre familial ici. Je crois que c'est toujours cette pensée, hein, soyez remplis de l'Esprit, vous êtes devenus une habitation du Seigneur en Esprit. Chapitre 6, verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Les serviteurs de cette époque, on peut appliquer cette parole à la condition d'employé ou de travailleur sous l'autorité d'une hiérarchie ou d'un patron aujourd'hui. Et là aussi, il faut être rempli de l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas facile? Avez-vous remarqué que très souvent, dans le milieu de travail, il y a cet esprit du monde là, qui est à l'œuvre et qui vise là à remonter, hein, ceux qui travaillent là sous une hiérarchie, sous une autorité, à disputer, à contester, à médire. Et même en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, on est emporté par cet esprit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais soyez remplis de l'Esprit. Seigneur, voilà, permets-moi de me comporter non pas en m'avilissant, non pas dans une soumission abjecte, mais dans une soumission volontaire, là, à l'ordre que toi-même tu as établi. Alors bien sûr, il n'est pas question de se laisser embarquer par des combines, par faire le mal lorsque l'autorité nous le demande, c'est pas ça, hein. Mais permets-moi, bien par mon application au travail, d'être un témoignage de la simplicité de ta grâce. Et puis, simplement, un avant-dernier verset, verset 9, c'est la contrepartie. « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Voilà, peut-être qu'il y a parmi nous des patrons chrétiens. Hein, là aussi, c'est une position d'autorité, de responsabilité. Il faut la grâce de Dieu pour, là aussi, nous comporter comme honorant le Seigneur. Alors tout ça, c'est un combat, c'est une lutte. Demeurer rempli de l'Esprit au milieu d'un monde qui est animé par l'Esprit de l'Antéchrist. Mais nous ne sommes pas seuls. Et puis après, hein, vous le relirez, Paul nous parle de toutes ces armes de Dieu desquelles nous pouvons nous revêtir pour tenir ferme contre les ruses du diable. C'est un combat spirituel. Il y a parfois toutes sortes de livres qui circulent, hein, sur le combat spirituel. Et c'est une réalité, le combat spirituel. Paul en parle. Mais ces livres nous transportent parfois dans des considérations mystiques, hein, qui ont été un piège pour bien des croyants. Ici, Paul nous parle de choses concrètes. Voyez le foyer, relation entre l'épouse et son époux, relation entre les parents et les enfants, relation entre les employeurs et les employés au travail. Tout ça, c'est le combat spirituel, tel que Paul ici nous le décrit. Et je vous assure que parfois, il faut toute la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur, par la bouche de Paul, nous dit ceci, verset 18, on termine. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous voyez, la plénitude de l'Esprit, il nous aide, non pas à nous sentir gonflés en nous disant « Je suis plein de l'Esprit, hein, je vais y arriver. » Non, non, non. Cette plénitude de l'Esprit nous conduit à prier « Seigneur, aide-moi. Reconnais ma dépendance, je reconnais que sans toi, j'y arriverai pas. » Et que ta grâce me soit donnée. Puis lorsque je fais un faux pas, Seigneur, lave-moi dans ton sang précieux. Donne-moi de relever la tête. Hein? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Je vous écris ces choses, écrira Jean, pour que vous ne péchiez pas. Hein? C'est la grâce qui nous donne de la force pour résister au mal. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et voilà, cet esprit nous aide à prier, nous conduit à prier pour que le Seigneur nous donne sa grâce, qu'il nous la renouvelle dans ce monde qui est marqué par l'esprit de l'Antéchrist. Que nous soyons différents, que nous puissions le glorifier et porter un témoignage nous, devant les yeux de ceux qui sont sans espérance. Même si ça les fait rire, même s'ils rejettent, Pierre dit il y a un jour le Seigneur peut les visiter. Et là, ils rendront grâce à Dieu. Et pas seulement prier pour nous, mais prier pour les autres. Ayant vécu et expérimentant ce combat, nous prenons conscience que nos frères et sœurs dans la foi ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Priez pour tous les saints. Seigneur, aide-moi, aide aussi mes bien-aimés, mon frère ou ma sœur dans l'Église qui a ses combats, qui a ses luttes que je ne connais ou que je ne connais pas. Seigneur, aide-le, aide-la, pour qu'ensemble, nous puissions paraître devant le Seigneur, car Christ revient bientôt. nous paraissions devant lui, les revêtus de sa justice, approuvés dans sa grâce, c'est bien, fidèle serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va terminer ce culte dans quelques instants par la prière. Que le Seigneur nous permette de nous fortifier ensemble, de nous exhorter les uns les autres, pour se lever respectueusement dans la présence de Dieu. Notre frère, monsieur, j'ai venu.